Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi faut-il s'intéresser davantage à la Pologne? Le président de la République, Emmanuel Macron, est arrivé aujourd'hui à Varsovie pour une visite d'État de 2 jours dans un pays avec lequel la France a depuis quelques mois des relations difficiles. Les désaccords portent à la fois sur des questions liées au climat, à la politique énergétique du pays fondée sur les centrales à charbon, mais aussi pour les réformes de l'État de droit qu'a entrepris récemment le parti au pouvoir Droit et Justice. Pourtant, la Pologne elle-même se considère, selon son président Andrzej Duda, comme un pays qui a accompli des exploits, un pays, je cite, inspirant. Faut-il donc regarder la Pologne comme un laboratoire des crises que traverse ces temps-ci l'Europe? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Paul Gradwohl est historien, maître de conférences HDR à l'Université de Lorraine, spécialiste de l'Europe centrale, directeur adjoint de recherche du groupement de recherche en connaissance de l'Europe médiane. Johanna Nowicki est professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Cergy-Pontoise, qui a coordonné également avec Chantal Dessol un livre à paraître dans quelques mois sur l'autre Europe dans la collection Bouquin chez Robert Laffont. Et Sébastien Maillard est également avec nous. Il est directeur de l'Institut, spécialiste de l'Institut Jacques Delors, spécialiste des affaires européennes et co-auteur avec Enrico Letta de Faire l'Europe dans un monde de brutes.
Sous les applaudissements des passants, le long cortège des magistrats se dirige vers le Parlement, là où actuellement, selon eux, les députés de la majorité veulent les réduire au silence. Alexandra Kiersnowska est juge à l'ouest du pays.
Les juges ont le droit de critiquer. C'est notre droit citoyen de dire quand les choses ne vont pas. Ce projet de loi va limiter notre liberté de parole. C'est pour cela que nous appelons ce texte la loi muselière.
Suspension, limogeage, les magistrats critiquant le pouvoir risqueront gros si la loi est votée en l'état. Andrzej Piersa, juge depuis 28 ans, a peur pour l'avenir.
Avec ce projet de loi, on risque de sortir de l'Union européenne car nous ne serons pas traités comme tous les juges européens. Le gouvernement est très déterminé à faire passer ce projet de loi, mais en même temps, il a aussi peur de l'opinion de ses partenaires européens et des sanctions européennes.
Certains craignent à terme une purge comme en Turquie où plus de 4000 magistrats ont été limogés il y a 2 ans. Parmi eux, Yavuz Zaydin, il représente son pays dans le cortège. Une quinzaine d'États européens sont ainsi présents.
Que se passe-t-il quand l'État de droit s'effondre? Nous avons vu ce scénario en Turquie et le film ne finit pas bien. Je sais ce que c'est que d'être abandonné, seul. Mais la Pologne est dans l'Union européenne et des Européens sont venus ici pour soutenir les juges. Utilisez ce soutien.
Voilà, c'est un reportage diffusé récemment sur France Culture de la part de notre correspondant de France Culture en Pologne, Thomas Giraudot. C'était plusieurs centaines de juges polonais qui étaient rejoints par des juges d'autres pays européens qui avaient défilé le 11 janvier dernier, il y a 3 semaines, à Varsovie pour protester contre un projet de loi qui permettait de sanctionner les magistrats opposés aux réformes judiciaires du parti Droit et Justice qui est au pouvoir. Ce texte a été surnommé par ses détracteurs « loi muselière ». Il a été adopté le 23 janvier dernier. A priori, il doit être encore approuvé par le président, mais le président étant du parti Droit et Justice, ça semble relativement facile. Bonsoir Johanna Nowicki.
Bonsoir.
Alors cette manifestation des juges fait partie des nombreuses manifestations que l'on a pu voir depuis l'arrivée du parti Droit et Justice dans les rues de Varsovie ou des autres grandes villes polonaises. C'est vrai qu'on a découvert un pays qui remanifestait après des années où on n'avait pas vu beaucoup de gens dans les rues.
Et je pense que vous commencez par l'aspect le plus optimiste dans une situation qui ne l'est pas vraiment, puisque la place de la société civile et la réactivité de beaucoup de milieux face à ce qui se passe politiquement est tout à fait la caractéristique polonaise comparée, par exemple, à la Hongrie. Souvent, on compare les mesures de Orban et de PiS. La réaction de la société n'est pas tout à fait la même.
Et parmi cette société, on peut dire par exemple que les femmes jouent un rôle particulier dans la façon dont elles ont protesté à propos de l'avortement, mais d'autres façons de se comporter dans la société polonaise et qu'elles ont été en pointe dans ces mouvements de rue par exemple.
Les femmes polonaises manifestent comme beaucoup d'autres femmes dans d'autres pays. Je ne pense pas que ça soit la spécificité polonaise, ce féminisme-là, mais leur présence est tout simplement la preuve que c'est une société qui, où les demandes démocratiques concernent tous les milieux.
Paul Gradwohl, vous qui connaissez à la fois effectivement la Hongrie, d'autres pays d'Europe centrale et la Pologne, est-ce que vous diriez que les deux évolutions de ces deux pays qui sont souvent comparées sont différentes ou marchent de pair ?
Les mesures prises aujourd'hui en Pologne sont en partie des décalques de ce qu'a fait M. Orban, indubitablement.
Vous voulez dire que l'inspirateur serait du côté de la Hongrie et qu'ailleurs on tenterait d'imiter ou de copier ou de transcrire, pour être plus poli, certaines des décisions qui sont prises en Hongrie?
Alors, effectivement, transcription est un bon terme, mais il faut voir que c'est une évolution internationale qui dépasse de beaucoup notre région. On mentionnait la Turquie, on pourrait mentionner la Russie.
Quand vous dites notre région, vous parlez de la région
centrale,
qui est votre région à vous.
Celle où on trouve, par exemple, la Pologne et la Hongrie. Bien, donc, dans cette Europe-là, effectivement, il y a des phénomènes qui sont caractéristiques, mais qui répondent à une évolution générale de la société. Qui aurait dit il y a quelques années qu'en Chine communiste, on allait instaurer la monarchie? C'est quand même très, très original, le pouvoir à vie d'un dirigeant dans un pays communiste aussi important que la Chine. C'est pas la Corée du Sud. Donc, il y a une évolution vers des formes d'autoritarisme, de sécuritarisme. Autrement dit, tout le discours qui fonde les mesures actuelles en Pologne, c'est parce que le pays est menacé dans son identité. Et ce discours identitaire, je pense, est quelque chose qui caractérise effectivement et la Hongrie et la Pologne.
Sébastien Maillard, vous êtes spécialiste d'affaires européennes. Est-ce que le voyage de Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne en charge de l'état de droit, qui s'est rendue en Pologne la semaine dernière, est un voyage important? Est-ce que le fait que la Commission se soit dit très préoccupée de l'état de droit en Pologne soit une déclaration importante, justement, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, en particulier dans le contexte de la visite du président de la République française en Pologne?
C'est un voyage qui s'inscrit en fait dans la continuité de la commission précédente. On se souvient que la commission sortante, la commission Juncker, il y avait à l'époque Frans Timmermans, qui incarnait presque le diable pour les Polonais, qui est un néerlandais socialiste qui vient refaire la leçon sur l'état de droit. Là, peut-être qu'elle sera... son voyage est mieux perçu, mais en tous les cas, c'est dans la continuité d'une commission européenne qui est là pour... son rôle, c'est d'être gardien des traités. Dans le traité européen, il y a un article 7 qui dit voilà, que lorsque l'état de droit est sérieusement menacé, il faut prendre des mesures. Et donc, et la France, d'ailleurs, était en première ligne pour pousser la commission sortante, la commission Juncker, M. Timmermans, à aller au front. Là, dans le voyage qu'effectue Emmanuel Macron ces jours-ci, il se garde bien de monter au front là-dessus. Il laisse effectivement la commission européenne en première ligne, tout en la soutenant dans cette démarche.
Alors, dire qu'il y a des atteintes à l'état de droit, ça veut dire qu'il faut peut-être les préciser. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des atteintes à l'état de droit? Et comment peut-on les qualifier ou simplement les décrire? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que certains considèrent comme des attaques à l'état de droit, Johanna Nowicki?
C'est à la fois très complexe et à la fois très simple. On pourrait parler d'une politisation de la justice et du contrôle des opinions sur l'état de la justice du pays. Donc, contrôle des juges.
Ça concerne donc essentiellement les questions judiciaires. Les
non,
questions
parce qu'on peut aussi évoquer l'université, on peut évoquer les médias. On peut commencer à évoquer le monde des affaires, où effectivement certaines dispositions permettent de contrôler les chefs d'entreprise. Donc c'est une ambiance générale dans laquelle les citoyens ont de moins en moins confiance dans le système. C'est bien pour ça qu'on parle de l'état de droit en difficulté. Et tout le monde n'est pas d'accord, bien entendu, le gouvernant considère que c'est une révolution conservatrice nécessaire, que c'est un assainissement d'une situation qui était malsaine. Et il y a un désaccord, ce qui serait parfaitement normal dans un pays démocratique. C'est pas ça qui est choquant. On pourrait parfaitement imaginer...
Mais c'est un pays démocratique. Quoi.
C'est un pays démocratique, avec des élections qui se sont effectuées normalement. Et on pourrait imaginer les démocrates et les républicains polonais se disputer au sujet de la vision de l'État et de la République polonaise. C'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que certains appellent effectivement une disparition de l'européanité, c'est-à-dire une polexite en rampant, c'est ça l'expression, un polexite rampant, c'est-à-dire le non-respect de ce que l'Europe demande à un pays qui en fait partie.
Et pourtant, effectivement, ce pays a s'est approché avec beaucoup d'attention depuis la chute du mur de Berlin de cette Europe, a voulu y entrer, est très actif dans la présence européenne. Donc on ne peut pas dire que ça soit un rejet massif de l'européanité, en l'occurrence Paul Gradwohl. Ce n'est pas du tout cela qu'on ressent quand on se rend en Pologne.
Bien sûr, mais pas plus en Hongrie. La population est finalement plus pro-européenne quand on regarde les opinions que la population française.
Surtout en Pologne d'ailleurs.
Et en Pologne, c'est particulièrement fort. Donc, ce qui est en question, ce n'est pas un sentiment anti-européen de la population, ce sont des campagnes politiques contre l'Europe, d'agitation.
Alors, qui prennent quelle figure, par exemple? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes de ces figures des campagnes anti-européennes en Pologne?
Alors, il y a eu, bien sûr, depuis 2015, toutes les campagnes liées à la tentative supposée de l'Europe d'envoyer des musulmans en Pologne. Inexistante, mais la campagne, elle, existait. Il y a des campagnes contre l'impérialisme de Bruxelles. Le terme est employé de façon récurrente dans toute la presse favorable au PIS.
Et on pourrait dire qu'en France, il y a des puissances politiques ou des partis politiques qui disent la même chose, d'une certaine façon. Donc, en cela, cette position n'est pas éminemment différente de ce qu'on entend dans le discours politique français. Les puissances, les propos anti-européens ont aussi leur place dans un pays comme le nôtre, par exemple.
Les propos anti-européens en France sont extrêmement puissants. Les Français, en 2005, ont voté comme ils ont voté. Donc, ce qui est fascinant en Pologne, c'est que malgré une opinion publique qui ne va pas trop tirer les politiciens vers ça, contrairement à la France, vous avez des politiciens qui affirment que leur pays est en danger et qu'une des causes, une des menaces principales vient de Bruxelles.
Un exemple peut-être qu'on peut donner à titre humoristique, c'est le président Duda qui a dit il y a quelques jours « Les gens ne vont pas nous dire dans les langues étrangères comment on doit vivre dans notre pays ». Donc une attaque vraiment qui a fait rire beaucoup de gens. En même temps, le sondage Kantar qui vient d'être publié hier montre 89% de Polonais qui pensent qu'il faut appartenir à l'Union européenne. Donc ce décalage ne peut pas être plus flagrant entre le président qui n'aime pas qu'on lui donne des leçons et les Polonais qui veulent rester en Europe.
Sébastien Maillard, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors et à ce titre très pro-européen en l'occurrence. Donc qu'est-ce que vous entendez lorsque vous vous rendez à Bruxelles justement de ce qui se dit en Pologne et qu'est-ce que vous percevez de cette tension possible entre un pays comme la France, membre de l'Union européenne depuis longtemps, et donc un pays comme la Pologne?
Effectivement, il y a un sentiment pro-européen qui est très fort et que je pense d'ailleurs Emmanuel Macron vient flatter dans le cours de sa visite. Ce qui est frappant, c'est ce décalage avec ceux qui sont au pouvoir. Et on se dit à Bruxelles et même aussi à l'Élysée ou ailleurs, est-ce que les Polonais électeurs se rendent compte qu'ils votent tout en se déclarant pro-européens pour un parti qui, je rappelle, le PiS siège au Parlement européen avec, il siégeait jusqu'à très peu, avec les conservateurs Tories qui ont fait le Brexit. Donc ils sont forcément, je dirais, dans le même camp que les pro-européens. Et on vient aussi leur rappeler, je pense que ce sera peut-être un des messages d'ailleurs du président français là-bas, dire que vous êtes le premier bénéficiaire du budget européen, la politique agricole commune vous est chère comme à nous, la politique aussi régionale, d'ailleurs tous les fonds de cohésion que Jacques Delors avait créé en son temps, eh bien, pour en bénéficier, il faut aussi respecter le contrat de mariage qui est imparti lorsqu'on est membre de l'Union européenne, et ça va avec le respect de l'État de droit. Donc on verra comment l'idée à Bruxelles, c'est de voir comment est-ce qu'on peut conditionner les aides européennes au respect de l'État de droit.
Alors, il y a aussi une autre pierre dans la chaussure du gouvernement polonais. C'est effectivement la question de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Question difficile, débattue, remise à l'ordre du jour par le grand voisin Vladimir Poutine il y a peu de temps et qui transparaît, selon vous, vous allez nous expliquer peut-être pourquoi, Paul Gradwohl, dans ce discours de Marian Turski, historien, journaliste polonais, survivant de la Shoah, lors des cérémonie des 75 ans de la libération d'Auschwitz. Ça a été diffusé et traduit par France 24.
Podzielę się z wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 65.
Je voudrais partager avec vous le souvenir suivant. En 1965,
w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, i wtedy
Je me suis vu accorder une bourse d'études aux États-Unis. Et cela fut le pic de, c'était le pic de ce mouvement de lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. J'ai eu l'honneur de participer à une marche pour les droits civiques avec Martin Luther King. Et lorsque les gens ont appris que j'étais détenu à Auschwitz, ils m'ont posé la question suivante. Que pensez-vous? Cela ne pouvait se produire qu'en Allemagne ou est-ce que cela pourrait se reproduire ailleurs? Et je leur ai répondu, cela peut aussi se produire dans votre pays, ici même dans ce pays, lorsque les droits civiques sont bafoués, lorsque les gens ne respectent pas les droits des minorités.
Voici ce qui a donc été déclaré par Marian Turski, historien et journaliste polonais survivant de la Shoah pendant les cérémonies des 75 ans de la libération d'Auschwitz. Bon, il parle des États-Unis, des droits civiques. Pourquoi avez-vous voulu, Paul Gradvol, parler et mettre cet extrait dans notre émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation polonaise d'aujourd'hui?
Déjà, cet extrait est extrêmement intéressant parce qu'on entend les applaudissements derrière, qui sont un témoignage de la situation actuelle en Pologne.
Vous voulez dire que quand il dit ici, il parle des États-Unis, des droits civiques, mais que ça n'est pas entendu comme tel par les gens qui sont en Pologne aujourd'hui, c'est ça?
Vous avez gagné, Emmanuel Laurentin, c'est bien ça.
J'ai simplement fait l'exégèse de la pensée de Paul Gradvol, c'est pas très compliqué.
Oh ben, c'est gentil. Mais au-delà de ça, si on écoute ce discours un peu plus tard, et malheureusement ça n'a pas été traduit par France 24, là il y a des allusions directes à l'importance de la défense de la Constitution, encore plus applaudie. Mmh. Et ce discours est important parce que il vient en réponse à ce qui s'est passé quelques jours plus tôt à Jérusalem, où Poutine s'était fait organiser par un oligarque, comme vous le savez, des cérémonies en anniversaire d'Auschwitz, pour la première fois avec l'appui de Netanyahou. Et donc, la Pologne s'est trouvée cette année, pour le 75e anniversaire d'Auschwitz, dans une situation intenablement ridicule, où la cérémonie sur place regroupait des personnalités moins importantes que celles qu'il y avait à Jérusalem, un échec de la diplomatie dramatique, un moment où le musée Pauline, je le rappelle, n'a toujours pas de directeur, car le ministre de la Culture ne veut toujours pas nommer celui qui a été désigné officiellement.
Le musée Pauline, il faut le préciser pour nous.
Le musée Pauline, c'est le musée d'histoire des Juifs de la Pologne à Varsovie, qui est une énorme réussite muséale depuis son ouverture en 2014.
Et public.
Et public.
Joanna Nowicki, comment ces questions qui sont liées effectivement à la disparition de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion à la fois allemande, nazie et soviétique, donc comment ces questions sont-elles redevenues des questions d'actualité pour un pays qui pourrait dire d'une certaine façon que on en sort progressivement de cette question justement de la Seconde Guerre mondiale?
Je pense que c'est l'histoire des taches blanches de l'histoire européenne qui n'ont pas été enseignées. Et on a fait tout un travail admirable en Pologne pour les remplir, pour raconter la vérité. Évidemment, les milieux d'opposition démocratique connaissaient Katyn, connaissaient le rôle de l'armée rouge pendant l'insurrection de Varsovie et d'autres chapitres qui fâchaient le pouvoir communiste en place. Mais beaucoup de problèmes historiques ont été réglés par un débat formidable. Et si cette situation revient, c'est parce que dans d'autres pays européens, cette histoire n'est toujours pas enseignée. Quand j'ai pris mes fonctions à l'université, j'étais quand même très étonnée que les étudiants français en sciences politiques ignoraient royalement l'histoire d'un pays où la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Juste pour revenir à Marian Turski que vous avez cité, il a aussi dit une chose très importante dans son discours. Il a proposé le 11e commandement, ne soyez pas indifférents. C'est l'indifférence qui peut être à l'origine des drames et il a beaucoup insisté sur cet aspect rampant que les gens voient pas et qui peuvent être à l'origine de quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Sébastien et Maillard, il y a aujourd'hui et demain à Rome une réunion de droite européenne où on trouvera Marion Maréchal, mais on trouvera aussi Viktor Orban ou Matteo Salvini, le patron de la Ligue, et l'ambassadrice de Pologne en Italie, ainsi qu'un député européen du PIS qui s'y trouveront. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela, en tant que directeur de l'Institut Jacques Delors, donc qui défend des positions pro-européennes, vous dit, bah, tout compte fait, on a bien raison de craindre effectivement cette alliance des extrêmes droites européennes ou des droites nationalistes européennes, selon qu'on les appelle, ou néo-nationalistes, pour pouvoir proposer une alternative à l'Europe telle qu'elle se fait? Est-ce que vous craignez cela, ou est-ce que les milieux qui sont les vôtres, très pro-européens, le craignent?
On a beaucoup craint avant les élections européennes, souvenez-vous, on pensait même que peut-être l'hémicycle européen de Strasbourg
allait changer de couleur,
allait vraiment basculer. Finalement, cette vague a été contenue. On se souvient des résultats aussi des Verts ou des Libéraux ou d'autres. Il n'empêche que c'est à la fois peut-être désolant de voir que l'espace politique européen qu'on appelle de nos voeux est actuellement surtout finalement investi par ces forces, je dirais, d'extrême droite.
Ça pose peut-être des questions aux pro-européens que vous êtes.
Exactement. Hein, okay. Et du coup, on ne voit pas, tout à fait, on ne voit pas du coup l'équivalent, je dirais, on n'a pas eu l'équivalent, je dirais, dans les autres familles politiques ou de manière aussi claire. On avait eu un rassemblement comparable, souvenez-vous, à Milan aussi, pendant la campagne européenne. Là, on voit les personnes que vous citez appartiennent d'ailleurs à des familles politiques différentes, puisque le Fidesz hongrois, lui, est actuellement toujours officiellement membre du PPE, du Parti
européen. Donc le parti de Orban, mais il semblerait qu'ils
sont suspendus et ça pourrait être encore prolongé, cette suspension. Je disais que le PIS appartient appartenait en tout cas jusqu'à maintenant au groupe avec les Tories, les conservateurs, la Ligue de Salvini est avec le RN, le Rassemblement National. Donc effectivement, il y a peut-être une recomposition aussi en cours, et ça oblige forcément l'Europe, on peut espérer en tout cas, à se réveiller davantage pour montrer, donner plus de la voix, parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser l'espace politique européen être uniquement occupé par ces forces-là.
18h42 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat et vous allez écouter un extrait du titre Poto Intelligentsia, interprété notamment par le rappeur polonais Mata, qui est vêtu aux couleurs d'un prestigieux lycée de Varsovie dont il a été l'élève.
Mój ziomo w pierwszy elo zjarał Amsterdam 1 września po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówek, którą uzupełniał. W termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba. Dom szkoła w Złotówie, dom szkoła w Uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na piętnastkach, no i dwudziestkach. I wiosna za budą, a zimą, gdy zimno na dworze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał Supreme, mój ziomo miał Babe'a. Mój ziomo na uro dostał te kluczyki od Merca, a na czarno ukryt sprzątały mu penthouse. Mój ziomo chciał wypłatę starego przećpać. Nie pykło, bo była tak wielka, że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarz. Mój ziom się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te taszki z Kerfa i jakie piliśmy na hejna o 8:20. I tak najebani na przerwach, bez przerwy, o. I tak najebani na przerwach, bez przerwy. I tak najebani na lekcjach, my to pato inteligencja. 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 Katolickie przedszkola strzeżone, osiedla, kurator angielski, gegra, kurator, dealerka dla sportu, nie po to, by przetrwać. Szkoła, korty, dodatkowe zajęcia, korki, butelki i jelki na zdjęciach. Harnaś, perełka w plenerkach, rzucamy chujami i nie jemy mięsa. Dobrze wychowani, wciągana jest kreska w bawełnianych sweterkach, o. My to pato inteligencja.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un titre de rap mis en ligne le 11 décembre et la vidéo en est à plus de 21 millions de vues sur YouTube. Visiblement, c'est un titre dont vous dites, Johanna Nowicki, qu'il est vulgaire, qu'il est très dur et qu'il a un certain succès dans la jeunesse polonaise et qu'il, en revanche, choque profondément
la bien-pensante.
Qu'est-ce qui se dit en gros ?
Moi, je reviens à mon dada, c'est-à-dire la vitalité de la société civile, et en l'occurrence la société civile jeune, qui étouffe devant cette bien-pensance, devant cette révolution conservatrice qui n'en est pas une, et qui contrôle absolument tout sur l'espace public. Je pense que c'est un jeu excessif et provoquant et effectivement volontairement vulgaire, mais à peu près normal dans un pays qui a la liberté d'expression.
Et puis quand on fait du rap, généralement...
Quand on fait du rap, c'est des protestants contemporains. Donc on a ceux de l'époque communiste étaient beaucoup plus littéraires et beaucoup moins vulgaires.
Paul Gradvol, si on regarde les signes qui permettraient de nous intéresser à cette Pologne, pas simplement pour des signes dangereux ou supposément dangereux pour notre avenir commun en Europe, mais des signes qui sont plutôt positifs. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, il faudrait absolument regarder la société polonaise de près?
Je dirais au moins deux premières raisons. La première, c'est les relations entre la société polonaise et l'Église et l'évolution de ces relations.
C'est-à-dire?
On avait une société polonaise qui, jusqu'à une époque récente, était extrêmement pratiquante et très soumise à son clergé.
On se souvient de Mgr Glemp dans les années 1979-1980, par exemple.
Et aujourd'hui...
Un clergé très dur, très...
Un clergé franquiste, pour une image que les Français c'est connaissent mieux. Dites, hein. Oui, non, mais c'est ce type de modèle, ou le Portugal de Salazar. Et en plein communisme, c'est ça qui est frappant, parce que pour un Français, ça peut sembler bizarre, mais l'esprit du clergé était bien celui-là. Et aujourd'hui, pour la première fois, assez massivement dans la société, il y a des réactions très fortes contre ce qu'était ce clergé, une moralité délétère, des attentats sexuels, enfin bref, toute une série de choses. Et pour la première fois en Pologne, des mouvements très forts, y compris dans le mouvement de protestation des femmes contre les restrictions apportées encore plus sévèrement à l'avortement et ses projets. Il s'agit aussi d'une réaction face au cléricalisme. Ça, c'est le premier domaine qui me semble extrêmement frappant. Le deuxième, ce qui me frappe, c'est la vie des universités, la vie académique et la vie intellectuelle qui s'organise beaucoup autour de plateformes Internet et les échanges qu'il y a dans ce pays qui sont extrêmement vivants et avec une ouverture internationale qui est peut-être plus forte que celle de la France. Je rappellerai juste un détail, tout bête. Les jeunes Polonais aujourd'hui parlent nettement mieux anglais que les jeunes Français.
Et d'ailleurs, c'est une des questions importantes. Que va-t-il se passer avec le Brexit? Est-ce que, par exemple, ces dizaines de milliers ou ces centaines de milliers de Polonais qui sont partis travailler en Angleterre vont revenir sur le continent européen? Est-ce qu'on le sait, ça, Joanna Nowicki? On ne peut pas faire de prédictions, effectivement, mais c'est une question intéressante, puisque ça fait partie d'une longue histoire, désormais, de la place de la Pologne dans l'Europe.
Permettez-moi d'abord de revenir au propos de Paul Gradvol sur l'Église. Et l'Église polonaise n'est pas uniquement le cléricalisme et la collaboration avec les régimes totalitaires ou pas démocratiques. C'est aussi N'ayez pas peur de Jean-Paul II. C'est aussi les éditions Znak à Cracovie, Signe. C'est les écrits de Tischner sur la dignité du travail opprimé par n'importe quel régime et une certaine jeunesse catholique qui est parfaitement ouverte et pas du tout celle dont on donne l'image vieillotte habituelle. Donc, c'est pas pour cette raison-là principalement qu'il faut s'intéresser à la Pologne. Je pense surtout que c'est un pays extrêmement vigoureux qui a triomphé d'une histoire tragique pendant son 20e siècle, qui a su se développer. Il ne faut jamais oublier quand même ce développement. Vous posez la question...
Mais vous donnez exactement la définition qu'a donnée le président Duda, d'ailleurs, de cette Pologne.
Et toute l'ambiguïté est là.
Disant, je vous invite à étudier nos exploits et à en co-créer de nouveau avec nous. La Pologne est inspirante, la Pologne inspire, a-t-il dit.
Sauf que le président Duda oublie que sa formation est arrivée au pouvoir en disant que la Pologne était en ruine. Donc il a fondamentalement changé de discours, qui était absurde et qui n'était pas convaincant, ni pour les Polonais, ni pour l'étranger. Ce n'est pas un pays en ruine, c'est un pays dynamique qui se développe, qui connaît tous les problèmes de pays démocratiques, y compris déplaisants, et qui est intéressant sur tous les plans, académiques, je suis d'accord, économiques et politiques aussi.
Sébastien Maillard, sur cette question européenne de ce que vont faire peut-être les Polonais qui vont rester d'ailleurs dans le Royaume-Uni, devenu donc une partie sortie de l'Europe, oui. En l'occurrence.
Je ne voudrais pas dévier l'émission vers le Brexit, parce qu'effectivement, ça peut nous occuper. Mais c'est vrai que la Pologne est le premier pourvoyeur de travailleurs détachés dans l'Union européenne. Et on le sait, beaucoup ont élu domicile en Angleterre. Au jour d'aujourd'hui, je dirais, leur situation ne change pas, parce qu'on sait que jusqu'au 31 décembre de cette année, en fait, finalement, l'accord de transition permet de garder la situation telle qu'elle est. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir si la Pologne arrivera elle-même à attirer ses travailleurs, puisqu'on l'a dit, elle est en plein boom économique, elle a un taux de chômage qui faiblit. En tout cas, dans les endroits, il y a des vraies tensions sur le marché du travail, et donc les salaires doivent augmenter et on est pour attirer cette nouvelle jeunesse. Mais je pense qu'il faut s'intéresser en fait davantage, non pas à la Pologne, mais aux Polognes au pluriel, si je peux le dire comme ça, puisque on a vu, on peut se méfier du schéma Pologne A, Pologne B, mais c'est vrai que lors des élections...
C'est quoi le schéma Pologne A,
Pologne
B ? C'est-à-dire
qu'entre la Pologne des villes, la Pologne des campagnes, la Pologne rurale et celle
on connaît ça en France aussi,
urbaine, etc., savez, on a vu
la France périphérique aussi. Et la France... Non,
mais il y a ce phénomène aussi dans beaucoup de pays, mais y compris en Pologne, entre celle du Sud-Est et celle du Nord-Ouest. Et donc, s'intéresser à la Pologne, c'est aussi voir toute cette complexité au sein de la population, effectivement, qui est loin de parler d'une seule voix et d'être tous derrière un seul parti.
Paul Gradvol.
Oui, ce qui est fascinant, c'est effectivement que l'Église catholique a ses deux côtés et que le côté libéral, pour dire de façon simple, pourrait être extrêmement inspirant pour l'Église européenne aujourd'hui, parce qu'ils sont en opposition.
Oui, mais ça, on l'a cru de l'autre Europe sur laquelle a écrit Joanna Novitsky. C'est-à-dire cette idée que on aurait un modèle pour l'Europe occidentale qui pourrait être un modèle d'Europe centrale ou orientale. Et puis en fait, on sait bien ce qu'on en a fait, malheureusement, Paul Gradvol, de ce modèle. On l'a plus ou moins passé par perte et profit assez rapidement après la chute du mur.
Oui, mais ce qui est très intéressant dans le cas de la Pologne, c'est qu'on va prendre un exemple auquel personne ne pense. La Pologne est aujourd'hui le pays qui a accueilli récemment, ces dernières années, le plus d'immigrés. Malgré tout le discours du PiS, aujourd'hui, il y a une quantité qui est très mal chiffrée, mais qui doit dépasser largement le million d'Ukrainiens. Sans parler d'autres populations, puisque pour la biélorusse bien sûr, mais on a aussi des gens du sous-continent indien qui font des livraisons à bicyclette partout aujourd'hui à Varsovie, ce qu'on n'a jamais vu. Autrement dit, la Pologne est un pays qui est en phase de diversification, contraire frontalement au discours du pouvoir, et ça se passe incroyablement bien. Il y a beaucoup moins de racisme en réalité quelquefois en Pologne qu'en France.
Et c'est une histoire très ancienne entre la Pologne, entre deux visions du pays, la Pologne des Jagiellon, ouverte, cosmopolite,
donc
mélangée, diverse.
Donc c'était une dynastie, effectivement, qui a dirigé la Pologne.
Ou la Pologne des Piastes, nationale, concentrée sur l'entre-soi, pour lequel il y a un mot intéressant en polonais qui exprime effectivement cette chaleur des chaumières où on est mieux avec les gens comme qui vous ressemblent et pas avec les gens qui sont différents. Ce débat dure depuis toujours en Pologne.
Oui, Sébastien Maillard.
Et on l'a vu effectivement lorsque la Pologne avait fait participer à ce recours contre l'accueil de demandeurs d'asile. Vous savez que lorsque la Commission en 2015 avait voulu faire une réallocation obligatoire entre différents pays, elle avait mis en avant, c'est intéressant de voir dans la Cour de justice européenne, l'homogénéité de la population. Et ça, c'est pas une notion qu'on a en droit européen, l'homogénéité ethnique. C'est en plus contraire à la tradition séculaire polonaise.
Et tout de même, il y a quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas abordé et que vous aborderez, j'imagine, dans le livre que vous avez coordonné avec Chantal Delsol, Joanna Novicki, c'est qui s'appelle L'autre Europe. C'est cette question tout de même que l'âme nationale, ça dit quelque chose en Pologne, alors qu'en France, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est quelque chose que nous avons, bon gré ou mal gré, abandonné. On dit bien les valeurs françaises, mais on ne parle pas de l'âme nationale française comme on parle de l'âme nationale polonaise. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il y a un petit fossé, voire un grand fossé entre la France ou l'Europe occidentale et un pays comme la Pologne?
Vous avez mis le doigt sur l'incommunication principale entre nos deux pays, puisque les Polonais parlent de l'âme nationale pour exprimer à peu près la même chose lorsqu'un Français parle de l'esprit français ou de l'éthos républicain ou du républicanisme. Les mots sont différents, mais ou du modèle social français avec lequel on s'identifie. Les mots sont différents, l'histoire est différente. La Pologne s'identifie davantage à son histoire nationale qu'à l'histoire de son État pour des raisons qu'on connaît de son histoire. Mais
c'est
en réalité,
c'est un État qui a disparu plusieurs fois.
C'est un État qui a disparu plusieurs fois. En revanche, l'attachement à la langue, à la tradition, au mode de vie, à une sorte de génie national est très similaire, exprimé d'une manière totalement différente pour des raisons historiques. Mais on n'est pas fondamentalement différent. Et j'insiste pour dire que la Pologne n'est pas seulement un pays de divergence par rapport à la France, mais un pays sur beaucoup de points très similaires.
Paul Gradvol et Sébastien Maillard, sur cette question.
Je ne peux qu'être d'accord avec Johanna. Ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que dans les deux cas, on utilise des arguments historiques pour justifier son bon droit. de Jeanne d'Arc, à l'inverse à Catine, à 1939, à l'antisémitisme, bref, des uns et des autres. Ce sont deux nations qui procèdent par jugements moraux, par le truchement de l'histoire.
Et c'est l'historien qui dit ça, effectivement, Sébastien Maillard.
À propos de l'âme nationale, je voulais, on parlait tout à l'heure au début de l'émission de l'europhilie des Polonais. Et pour eux, effectivement, c'est quelque chose qui va ensemble. Je crois que l'entrée de la Pologne après la chute du mur dans la famille européenne, retrouver, parce que Jean-Paul II parlait des deux poumons, enfin, en tout cas, cette réconciliation entre l'Est et l'Ouest, pour eux, ça c'était dans le même élan. Et donc, peut-être contrairement, peut-être vu de France, être européen et être polonais, ce qu'a vu de Varsovie, ça va pleinement ensemble.
Et si on réfléchit à cette position particulière qu'occupe la Pologne au sein de l'Europe désormais à 27, on peut se dire, Paul Gradwohl, qu'on pourrait imaginer que la Pologne va aller chercher, du moins les dirigeants européens vont aller chercher des alliances, vont aller chercher des alliances ailleurs qu'en Europe occidentale. Le président Duda a dit l'autre jour l'importance pour lui de l'initiative des trois mers. C'est Baltique, Adriatique, Mer Noire, par exemple. Donc on se dit, voilà, on regarde la carte, Baltique, Adriatique, Mer Noire, c'est une sorte de, je vais pas dire de Lotharingie qui traverse l'Europe du nord au sud, mais c'est vrai que c'est un endroit très particulier. On se dit, tiens, c'est une vision différente, en tout cas de la géopolitique, que la nôtre.
Alors, toutes les nations européennes ont un espace différent. Si vous prenez la Hongrie aujourd'hui, ça s'en va vers l'Asie centrale.
Oui.
Donc, bien évidemment, il y a des discours de ce type. En pratique, au-delà du discours, la Pologne, aujourd'hui, rêve d'un appui américain.
Donc, c'est au-delà des trois mers.
Et là, on est au-delà des trois mers, beaucoup plus que des trois mers. Donc, c'est très, très compliqué, parce que là, on a affaire quand même à beaucoup de poudre.
Sébastien Maillard.
On parlait du Brexit, la sortie du Royaume-Uni, quelque sorte, renforce la place de la Pologne dans l'Union européenne, puisqu'elle devient relativement plus importante le fait qu'un grand pays comme le Royaume-Uni sorte. Et d'ailleurs, c'est pas
je crois que pour rien que le président français Macron rappelle que la France, la Grande-Bretagne, la France, la Pologne et l'Allemagne, ça fait la moitié de la population européenne.
Oui, crois. Et il a annoncé aujourd'hui, hein, effectivement, on essaie de retravailler le triangle de Weimar, c'est-à-dire donc l'alliance entre les trois pays, France, Allemagne, Pologne, qui vont se réunir au plus haut niveau prochainement. Il y a déjà eu au niveau des ministres. Et donc, c'est l'idée aussi, plus de France, de ne pas se retrouver en simple tête-à-tête avec l'Allemagne, mais de trouver différents alliés selon les sujets.
Joanna Nowicki.
Les deux nations, la France et la Pologne, sont des nations littéraires. Donc nous adorons les narrations. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les confrontations des narrations qui ont beaucoup d'imagination, qui puisent dans l'histoire, qui parlent ou pas aux Français, mais qui sont dangereuses, puisque les narrations, ce n'est pas la réalité.
Bah, c'est au nom des narrations souvent qu'on fait la guerre, par exemple.
Mais exactement, c'est pour ça il faut surveiller les narrations et travailler sur les narrations, non pas pour les ridiculiser, mais pour les comprendre.
Sébastien Maillard.
Le présent voyage du chef de l'État français est vraiment pour travailler ce narratif, puisque effectivement, il arrive après une séquence un peu malheureuse pour lui vis-à-vis de la Pologne, après avoir parlé de rapprochement avec la Russie, après avoir mis un veto à l'élargissement aux Balkans occidentaux, après avoir parlé de mort cérébrale à propos de l'OTAN. Tout ça, ça faisait trois explications qu'il doit avoir avec ses interlocuteurs polonais qui ont eu très peur en entendant tout ça.
Paul Gradwohl, sur ce point.
Et cette peur est réelle parce que la frontière russe avec la guerre en Ukraine est quelque chose de très 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 actuel pour les Polonais. Et je crois que la sensibilité française et l'information française sur ce qui se passe dans cette région est gravement lacunaire. On fait semblant de croire que la Russie est un gentil État qui finalement agit comme tous les autres. Et malgré la Syrie, malgré ce qui se passe dans le Donbass, on est dans une situation, effectivement, on peut comprendre que les Polonais aient peur.
Merci à tous les trois. Je rappelle donc que nous avions autour de la table Joanna Nowicki. On attendra avec impatience, sous votre direction ainsi que celle de Chantal Delsol, un livre collectif qui s'intitule « L'autre Europe, la vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 ». Ça sera aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Paul Gradwohl, je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Lorraine et spécialiste de l'Europe centrale. Et merci à vous, Sébastien de Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors est co-auteur avec Enrico Letta de « Faire l'Europe dans un monde de brutes ».
C'était traduit en polonais.
Ça a été traduit en polonais en plus, mais bravo.
Moi j'ai la version.
Oui, évidemment. Paul Gradwohl a la version polonaise. Moi je ne l'ai pas et je ne pourrais pas la lire. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prissé. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger et à la réalisation, Assia Ralide. demain dans le temps du débat, en partenariat avec le journal La Croix, la retraite donne-t-elle du sens au travail ?